Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est très important de bien manger, justement. Personnellement, je me suis toujours méfié des gens qui n'aimaient pas les plaisirs de la table. Car enfin, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, le manque de curiosité...
On peut pas
dire ça. Le manque de curiosité gastronomique et de jovialité culinaire vont très souvent de pair, et pas seulement de
fesses. Non.
Trop tard, la sonnette. Avec un caractère grincheux, pète sec, hargneux et parpaillot.
C'est très important de bien manger, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Desproges, et pas n'importe où, dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter, nous étions en 1981. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission d'été, d'autant qu'aujourd'hui on vous raconte la face cachée de l'un des humoristes les plus célèbres de France, une figure populaire de notre patrimoine culturel, c'est... Pierre Desproges. Ouais, tout le monde l'a reconnu évidemment. Un Pierre Desproges aujourd'hui, armé d'une fourchette et d'un couteau bien aiguisé. Un Pierre Desproges très porté sur la chose culinaire et sur les beaux goulots. Un Pierre Desproges qui a mis son humour féroce, ses blagues potaches, son sens de l'observation sans concession au service de chroniques gastronomiques dans un magazine nommé Cuisine et Vins de France. Celle qui nous raconte cette aventure méconnue au cours des années 80, c'est Elisabeth de Meurville. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste gastronomique depuis plusieurs décennies. Vous êtes connue comme le loup blanc dans le métier. Vous pilotez le Guide des Gourmands, un guide de référence qui recense les meilleurs produits artisanaux de France. Et c'est vous qui avez osé faire rentrer en 1984 Pierre Desproges à Cuisine et Vins de France, dont vous étiez la rédactrice en chef adjointe. Vous êtes devenus des amis à table. Et vous avez aussi coordonné la publication il y a quelques années d'un recueil rassemblant ses chroniques culinaires, Desproges, encore des nouilles, aux éditions Les Échappées. C'est un livre qui a beaucoup de succès, qui est toujours disponible en librairie et qui constitue une très belle lecture d'été. Alors évidemment, on va savourer du Desproges avec vous, Elisabeth de Meurville, dans cette émission. Mais on va aussi le savourer, Desproges, grâce à un grand humoriste de France Inter qui s'est mis quelques-unes de ses chroniques en bouche.
Je vous demande pardon, monsieur, mais dans ma famille, ce sont les femmes qui font les gosses et qui goûtent les vins.
Vous l'aurez reconnu, Daniel Morin, lisant du Pierre Desproges rien que pour nous. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Elvira.
On part pour Istanbul, ça vous dit?
Ah, génial.
Ça paraît un peu loin de Desproges, mais pas tant finalement.
Et
vous
oui,
allez voir.
On va comprendre le lien grâce à vous, Elvira. Et Jérôme?
Eh ben, nous, on va partir dans la maison familiale de Pierre Desproges.
Très bien. On est dans le Val-de-Loire?
On est dans le Val-de-Loire, exactement.
Parfait.
Touraine.
C'était un petit indice pour nos auditeurs. On va déguster à l'heure d'été. Ce sont toutes nos recettes, nos infos pratiques, nos conseils, les podcasts de toutes nos émissions et toutes nos chroniques à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Vivre heureux, pour moi, c'est ma famille aussi. Je suis très vieux con aussi, là. J'aime beaucoup, j'adore ma femme, j'adore mes enfants. Je suis vraiment terrible comme mec.
Ça ne m'étonne pas.
C'est épouvantable, ma vie, vous vous rendez pas compte. J'aime bien le cassoulet, j'aime bien les Saint-Émilion, surtout les 66. Ouais. Ça, et puis le sexe, Dieu, enfin bon, il y a pas de raison.
61, c'est pas mal aussi.
De 61 au Brion? Ah là là, c'est existant. J'ai bu un 43, moi. Ouais. C'est quelque chose. Alors ça, c'est les vraies raisons d'espérer, quoi.
Ouais, c'est les vraies raisons de vivre.
Oui, oui.
Juste avant de rejoindre Pierre Desproges, je vous propose de déguster une boisson. Alors, c'est pas du Aubryon, hein, au risque de vous décevoir. C'est une boisson que vous goûtez à l'aveugle. Est-ce que quelqu'un déjà peut identifier le type de boisson?
C'est typé bière.
Bravo, oui, Elisabeth.
C'est sûr.
Est-ce que vous aimez, est-ce que vous pourriez me la décrire, Elisabeth?
Ah, aimer, je sais pas ce que ça veut dire dans ce type de boisson. C'est sympathique. Mm-hmm. Voilà. C'est une boisson, si on a soif, une boisson, ça fait toujours du bien. Et ça a plus de goût que l'eau, quoi.
Mm-hmm. C'est pas très houblonné.
Non, c'est pas très amer.
Non, pas très amer.
Mais ce serait une. Moi, ça me fait penser à une bière de type lager.
Mm-hmm.
Très peu houblonnée, donc pas une pils, par exemple. Mm-hmm. Ou alors une pils très peu houblonnée. C'est assez salin.
Ah, alors là, vous avez. Il y a quelque chose d'intéressant.
Il y a quelque chose de iodé et de salin. Il y a des très jolies amers. Ça rejoint cette chronique que j'avais faite au cours de. Dans le confinement, sur le caractère salin et l'origine organique du salin, de la sensation saline en bouche.
Mm-hmm.
On ressent ça à travers ces amers très fins, mm-hmm, qui font saliver et qui donnent ce caractère salin à la boisson.
Très bien,
en l'occurrence. Il y a eu en Bretagne des gens qui avaient fait dans le sud de la Bretagne, j'avais été goûter il y a quelques années, qui faisaient une bière avec de l'eau de mer.
Ah oui, mais alors ouais. Là, on est. Alors, il y a effectivement un caractère salin qui n'est pas apporté par le maire.
Il y a un truc en plus. Il y a quelque chose qui n'a pas
Il y a un ingrédient qui est à la base de cette bière.
Il y a pas d'alcool là-dedans.
Si, il y a de l'alcool. Il y en a 5%.
Ah ouais, d'accord.
Oui.
Elvira.
Je donne un peu mal en gauche.
Une bière à l'huître ou un truc comme ça.
Mais le chat aimerait bien parce que c'est un petit côté poisson.
Alors, c'est le nouveau bébé. Attention, dans ce monde artisanal des bières, les craft beer, diraient nos amis anglo-saxons, un nouveau bébé né du mariage entre un boulanger pétri de conviction et une micro-brasserie. Le boulanger bio, c'est Emmanuel Croteau qui est à la tête du Goût du Pain. Vous connaissez Elvira ?
Oui, à Aigremont, formidable boulanger. Ouais,
absolument,
ouais.
Dans l'Yonne, on se suit sur les réseaux sociaux et c'est un fidèle dont on va déguster.
Belle population, levain naturel, tout ça, tout ça.
Exactement, il façonne du pain au levain naturel avec des céréales cultivées en bio à 20 km de chez lui. Et au-delà de la qualité artisanale de son pain, il est vraiment engagé dans une démarche éthique et anti-gaspi à tous les niveaux. Il s'interrogeait sur la façon dont il pourrait recycler son pain invendu. Il a des pains au levain naturel qui vont pas forcément, qui racissent, donc du coup jusqu'à maintenant il en donnait à un éleveur de poules bio du village, mais il a trouvé une nouvelle façon d'offrir à son pain une seconde vie. Il a rencontré plusieurs micro-brasseries de la région, il a eu un coup de foudre pour l'une d'elles, c'est Grand Duc, une micro-brasserie située dans le Pays d'Hôte. On est en Bourgogne, à mi-chemin entre Auxerre et Troyes, et cette microbrasserie fabrique des bières de dégustation bio, de fermentation haute, non filtrée.
Alors c'est pas une lager du tout.
La voici, ce n'est pas une lager. Non. Et de l'union entre le boulanger et la microbrasserie est née cette bière avec un brassin anti-gaspillage composé d'une grande partie de pain. Oui, il y a du malt d'orge évidemment, et il y a beaucoup de ce malt d'orge qui est remplacé effectivement par ce pain qui a été. Alors c'est du pain soit au blé, soit du pain aux petites épeautes qui apporte un peu cette note gourmande.
Ouais, c'est vrai.
Le pain est toasté. Et il entre dans la fabrication de ce brassin.
C'est bien foutu, hein, ça.
Comme quoi, avec le vieux pain, on peut faire des croutons et puis on peut faire de la bière.
Une légère acidité. Et on dit que le côté trouble, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit, est apporté justement par, ce serait le gluten qui apporterait, justement, ce
donc
caractère.
C'est une bière avec gluten.
Et là où il dit que le caractère salin, effectivement, est très identifiable dans cette bière, c'est que précisément, les pains qui entrent dans la composition du brassin sont salés. Et on retrouve le sel, précisément dans cette bière. Vous aimez ou pas? C'est validé?
Ah oui, moi je trouve ça, c'est une jolie bière qui est fine, qui est très digeste. Oui, très bien. Alors totalement validé.
Et que servie un peu fraîche, plus fraîche.
Oui, servie.
Ça serait mieux. Plus fraîche qu'elle n'est servie là.
Voilà. Je suis assez d'accord. On va la remettre un peu au frais.
C'est une vraie boisson. C'est une vraie boisson qui désaltère.
On va la remettre au frais.
Le rôle d'une boisson.
Voilà, toutes les informations pour trouver cette bière cet été sont sur franceinter.fr à la page On va déguster. La brasserie Grand Duc avec le boulanger, le goût du pain pour cette bière au pain d'origine bourguignonne. Elvira, justement, en parlant d'initiatives éthiques et solidaires dans l'alimentation, on fait un tour avec vous dans une plateforme ou sur une plateforme qui gagne à être connue.
Dans le registre du zéro déchet, de l'alimentation durable, de l'agroécologie, je vous conseille de passer un peu de temps, voire beaucoup de temps, sur une plateforme formidable qui s'appelle imagotv.fr. Alors c'est pas nouveau, c'était lancé il y a un an et demi, mais je me suis plongée dans leur contenu assez récemment. Les contenus, ce sont 2500 vidéos, docu, web-séries, courts-métrages, podcasts formidables. Alors que vous vous intéressiez à la résilience alimentaire, aux techniques de permaculture pour débutants, avec des témoignages de familles un peu partout en France qui sont lancés sans rien y connaître, à des gestes à adopter pour lutter contre le gaspillage alimentaire, vous trouverez votre bonheur dans l'immense choix qui est proposé, une foule de vidéos, notamment à format très court, des solutions pratiques, des idées, et notamment des solutions pour très pratiques, avec des idées pour une autre agriculture, pour ce qu'il faudrait vraiment faire pour réformer la PAC, qui est quand même le gros sujet du moment, mais de manière pas sentencieuse, pas donneuse de leçons, et hyper pratique. Vraiment, c'est une mine, c'est imagotv.fr.
Et l'accès est libre ?
L'accès est libre, ouais.
Très bien, bonne nouvelle. Et ben voilà, on peut dévorer du Imago pendant l'été.
Ouais.
En accès libre. Un grand merci Elvira pour ce conseil. Cette émission a été préparée par Nadia Chougui, Romy Engels et Morgane Mison. Elle est réalisée par Camille Blanès avec Arnaud Caillet. Djoubaka pour la programmation musicale. Pierre Desproges, gastronome, c'est juste après Take As I Am de Prince Fatty et Sniss McMinamin. Bel été au son du reggae sur France Inter.
just the way you are. It's a serious thing not to talk a lover. Your brother take me as the damn pretty far. Me not go strangle you like a anaconda. Just the way you are make it much better. The Indians run up on the mind center.
On connaissait la pêche Melba, le célèbre dessert inventé par Auguste Escoffier. En voici une version carnivore et carrément déjantée. Attention, Pierre Desproges n'était pas à cheval sur les conventions.
Vous reprenez votre crayon et vous notez. Pour bien réussir le cheval Melba, prenez un cheval. Un beau cheval. Le poil doit être lisse, c'est un signe de bonne santé, n'est-ce pas ? L'œil doit être vif, éveillé, et on doit y sentir, dans cet œil de cheval, ce regard indéfinissable, plein de tendresse débordante et de confiance éperdue dans l'homme, dont ces cons d'animaux ne se départissent habituellement qu'aux portes des abattoirs. Donc prenez un cheval, un beau cheval, comptez environ 800 kilos pour 1200 personnes. Pendant que le cheval cherche à enfouir son museau dans votre cou pour un câlin, foutez-y un coup de burin dans la gueule. Attention! Sans le tuer complètement. Le cheval, c'est comme le homard ou le bébé phoque, faut les cuire vivants pour le jus, c'est meilleur. Bon, vous réservez les os et les intestins pour les enfants du tiers-monde. Débarrassez ensuite la volaille de ses poils, crinières, sabots et de tous ces parasites qui pullulent dans ses poils, les poux, les puces, les jockeys, etc. etc. Réservez les yeux, mettez-les de côté, vous les donnerez à bébé pour qu'il puisse jouer au tennis sans se blesser. Car l'œil de cheval est très doux. Préparez pendant ce temps votre courbouillon avec sel, poivre, thym, laurier, un oignon, un clou de girofle, persil, pas de basilic. Pas de basilic avec le persil. Le basilic supporte très mal la cuisson. Ça on est bien d'accord,
oui, ça se met cru. Collègue. Ça se met cru, le basilic.
Bon, alors pas de basilic, faites pas les cons. Bon. Une carotte et un mérou qui vous indiquera en explosant à la fin de la cuisson un peu vif.
Non, arrête.
Oui, c'est exactement non. Comme pour la recette du chat grand veneur. Quand le chat pète, le mérou boue et quand le chat boue, le mérou pète. Ça y est, je l'ai dit. Quand l'eau commence à frémir, le cheval aussi. Attention, s'il est rouge, c'est un homard. Si le cheval se sauve, faites-le revenir avec une échalote. Dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive, ou si c'est un cheval arabe, dans une cuillerée d'huile d'arachide. À l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. S'il revient au galop, c'est que vous avez vraiment mal ajusté votre coup de burin. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement et pan dans la gueule. À mi-cuisson, passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, passez au nègre. Éteignez la cuisson, mais ne sortez pas encore le cheval Melba de la casserole. Laissez-le mariner là. Pour accompagner cette délicieuse recette, je vous conseille un Saint-Émilion léger, un Corbin Michotte. Oui. 78, il l'a déjà fait.
Oui, c'est une bonne année, oui.
Très bonne année, merci, merci cher collègue. Surtout pas d'eau. Surtout pas d'eau, jamais d'eau avec le cheval Melba.
La recette du cheval Melba par Pierre Desproges. C'était le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Nous étions en 1982 avec pour invité d'ailleurs, pour l'anecdote, le cuisinier Pierre Troisgros. Alors Pierre Desproges, on l'a vu, hein, il allait très loin dans l'humour grinçant, le politiquement incorrect. Certaines de ses blagues ne passeraient plus d'ailleurs aujourd'hui pour nos oreilles d'aujourd'hui. Pierre Desproges, on le sait, a multiplié les casquettes. Il a donc été procureur fantasque sur France Inter, mais aussi auteur des chroniques de la haine ordinaire. Il fut journaliste au quotidien L'Aurore, collaborateur collaborateur à Harakiri, auteur de spectacles, présentateur d'une émission d'humour sur France 3. Mais ce que l'on ne sait moins, et que n'indique pas d'ailleurs par exemple sa fiche Wikipédia, c'est que Pierre Desproges fut aussi chroniqueur gastronomique dans une revue qui existe encore, Cuisine et Vins de France, dont vous étiez, Elisabeth de Merville, à la tête ou presque.
Non, j'étais rédactrice en chef adjointe. Je n'étais qu'une femme dans ce monde de gastronome à gros bide. J'étais qu'une femme, oui, donc j'étais forcément adjointe.
C'est ça. Et l'aventure a commencé en septembre 84 et s'est étalée jusqu'en novembre 85.
Voilà. Et moi, j'étais partie des raisons obscures. Mais Monsieur Desproges est juste resté 2 mois le temps de réfléchir que sans moi, ce journal ne valait plus la peine.
Alors comment ça s'est passé? Parce qu'il est vrai que Pierre Desproges et son pouvoir de libre penseur...
Et son côté incorrect au milieu de...
Dans un journal quand même, dont le profil sociologique était clairement identifié.
Oui, c'était des masculins, c'était un masculin de province, c'est-à-dire des notaires, des toubibs, des gens très bien.
Hein, pas, on dirait aujourd'hui gens, CSP+.
Mais assez classique, assez Rotary Club, assez bien rangé et assez poli. Alors c'est vrai que lui, avec ses contrepétries et autres jeux de mots, parfois douteux,
oui.
Mais bon... Souvent drôle quand même, très drôle. Parce c'était que... compliqué. Mais moi, je l'avais interviewé, je faisais une série d'interviews de célébrités. Et je les invitais à déjeuner en tête-à-tête ou à dîner. Jacques Lang, j'avais dîné avec lui parce qu'il préférait. Mais Desproges, j'avais déjeuné avec lui. En général, ça se passait chez Guy Savoie. Parce que Guy Savoie, qui à l'époque n'était pas encore 3 étoiles, mais en avait 1 et puis 2, je lui disais, bon, tu fais ce que tu veux. Si le mec demande quelque chose, on lui sert, mais sinon, tu nous fais le menu que tu veux. D'ailleurs, là, je me souviens que Pierre Desproges avait adoré le foie gras aux petits légumes. C'est vrai que c'était un joli plat. Et donc, je l'ai invité, il n'y a pas eu de problème, on a déjeuné ensemble. Et c'est vrai que le déjeuner était très sympa parce que il parlait, il mangeait en même temps. Enfin, pas la bouche pleine, mais il avalait vite. Enfin, je sais pas... Tout ça a été très bien parce que c'était quelqu'un d'assez raffiné, ce qu'on n'imagine pas forcément en l'écoutant. Mais bon, on a goûté du bon vin, il adorait ça et c'était sympathique. Et je lui dis, ça serait trop bien que vous fassiez une rubrique dans le journal. Évidemment, c'était un peu incongru, mais bon.
Une petite poche de résistance, quoi.
Oui, c'était... Et donc, je lui ai demandé, et il m'a dit non, j'ai trop de boulot, j'ai trop de trucs.
Il vous a opposé un premier refus.
Ah oui, un refus. J'étais dépitée, hein, parce que j'aurais bien aimé, quoi. Et donc, le lendemain, je le rappelle, je dis, j'ai eu une idée. Vous êtes passionné de vin. Si vous me faites cette rubrique, je vous paye en liquide. Rouge ou blanc.
Ah oui.
Et on l'a fait.
Non.
Et il a éclaté de rire. Et il a accepté.
Attendez, le salaire de Pierre Desproges à Cuisine et Vins de France, c'était vraiment du liquide.
Oui, n'insistez pas, je pense qu'il y a prescription, mais bon, de toute façon, c'est pas moi.
Non, mais il n'y avait pas d'échange d'argent entre vous, c'était vraiment du vin.
Oui, des caisses de vin. Mais ça a duré 12 mois, mais c'était assez drôle. Ça doublait le lien, parce qu'en fait...
Et là, il a été séduit et il a accepté cette proposition.
Il a accepté, et donc ça se passait en juin, et donc la première chronique est passée en septembre.
Donc il avait une chronique, une page mensuelle.
Voilà, et moi je me marrais en fait, il nous envoyait ça tapé à la machine, mais je l'ai retapé pour pouvoir rigoler un peu plus.
Et on a trouvé, figurez-vous chère Elisabeth, les tout premiers mots de Pierre Desproges en septembre 1984 dans le magazine Cuisine et Vins de France, sa première ligne. C'est avec l'humilité d'un gastronome approximatif, doublé d'un buveur anarchique, que j'ose aujourd'hui, cher lecteur de Cuisine et Vins de France... ternir d'une plume profane votre éclatante revue chérie. Voilà. Donc ces chroniques portaient sur des produits, sur des recettes décalées, sur des travers de notre gastronomie, sur nos mauvaises habitudes de français, humour noir, politiquement incorrect, des blagues de mauvais goût, etc. Tout y passe. Tenez, un petit exemple dans une chronique intitulée « Tradition phallocratique ». Pierre Desproges dénonce, vous allez l'entendre, avec férocité et ironie, une certaine misogynie pratiquée dans les restaurants étoilés des années 80. Peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, vous allez juger. Voici un morceau choisi, lu par notre ami Daniel Morin.
Il se trouve que j'ai la chance de partager ma vie avec une femme de goût, dans les deux sens du terme. D'une part, elle habille son corps, ses murs, ses enfants et ses paquets cadeaux avec une pétillance discrète et de bon aloi. D'autre part, la nature l'a doté d'une sensualité gustative exacerbée qui l'écarte couramment de l'endive pour la pousser vers les cochonailles luxuriantes. Et d'un nez méticuleux et sûr, apte à repérer une pincée de noix de muscade dans un baril de soupe populaire. Au petit jeu périlleux des dégustations aveugles, et quoi que l'aveu public m'en coûte, elle gagne plus souvent qu'à mon tour. D'autres femmes, j'en connais, ont ce don prestigieux. Alors, pourquoi faut-il, en respect imbécile des plus usés des traditions phallocratiques, que les sommeliers de nos meilleurs restaurants s'obstinent à faire goûter d'emblée leur cru au Tarzan poil aux pattes après avoir planté l'insultante carafe d'eau quasiment sous le nez souvent génial des pauvres Jane? En pareil cas, je ne manque jamais de m'écrier avec un ton d'indignité légèrement surfait, mais toujours sincère. Je vous demande pardon, monsieur, mais dans ma famille, ce sont les femmes qui font les gosses et qui goûtent les vins.
Ce que l'on découvre en écoutant les chroniques gastronomiques de Pierre Desproges ou en les lisant dans le recueil que vous avez piloté il y a quelques années, c'est la grande qualité de plume de Pierre Desproges. Au-delà de ses blagues parfois provocantes, etc., c'était un homme profondément lettré.
Extraordinaire, et il manipulait la langue et les mots avec un talent, alors un talent plein d'humour, mais ça pétillait, mais avec vraiment un langage riche en vocabulaire, et tout, c'était extraordinaire.
Comment ont réagi les lecteurs et les lectrices de Cuisine et Vin de France?
Pas toujours bien, à commencer par la patronne du groupe, Marie-Claire, qui m'a appelée, qui me dit « Elisabeth, vous êtes bien sûre ?» Mais il y a des lectrices qui ont écrit et qui ont dit « J'arrache la page avant de lire mon journal », comme si ça allait leur salir les doigts. Ouais. Et j'avais passé la lettre à des proches, qui en a fait une chronique d'ailleurs, qui est dans le bouquin.
Il faut dire qu'il allait quand même assez loin. Et en même temps, quand il dénonce la misogynie, effectivement, de certains grands restaurants et des sommeliers qui font systématiquement boire ou faire goûter le vin à l'homme sans même poser la question. Bon, même si je crois que Pierre Desproges, c'était un rôle qui lui appartenait de goûter le vin.
Il aimait beaucoup goûter le vin. Il aimait beaucoup goûter le vin, mais il voyait pas d'inconvénient à ce qu'on fasse goûter aux deux. C'est complètement imbécile ce côté. Et monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a même encore des sommeliers qui demandent au mec ce qu'on choisit comme vin. Bon, moi j'ai un homme qui me passe la carte des vins, mais il y a beaucoup de femmes qui sont capables de choisir le vin et même mieux que les hommes, elles goûtent. C'est une vieille tradition macho de pays latin, non ?
Pierre Desproges, grand amateur de vin, propriétaire d'une cave dans sa maison parisienne du 20e arrondissement.
Oui.
Une cave bien garnie.
Rue de la Mare. Ah oui, j'y suis allée. J'ai visité la cave de Pierre Desproges. Sans plus, nous n'avons pas fait autre chose que de regarder les bouteilles. Il avait de jolies bouteilles.
Alors il y avait du Bordeaux.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de crus de Bordeaux. Il était très, très, très adepte du Bordeaux. Il trouvait que, d'ailleurs, il l'avait dit dans l'interview, que les Bourgognes étaient des vins vulgaires. Là, je suis pas d'accord avec lui et je ne le suis toujours pas. Enfin, je veux dire, c'était pas, mais c'était son avis. Il avait évidemment du Bourgogne puisqu'il avait une maison à Bourgogne et que c'est là qu'il avait bu son premier vin, à la limite. Et puis, il avait un peu de vin blanc. Et puis, il m'a dit, justement dans l'interview, qui venait à Venise de goûter un joli vin blanc du Prosecco et qui demandait qu'on lui donne une adresse. Comme quoi il était en avance sur son temps, parce que le Prosecco aujourd'hui, il y en a partout.
C'est vrai.
Mais à l'époque, je crois que je m'étais renseigné, que je lui avais envoyé une adresse ou deux, mais effectivement, personne n'en buvait.
Donc environ 1000 bouteilles dans la cave de Pierre Desproges, moitié Bordeaux rouge, notamment des graves et quelques Bourgognes blancs, mais seulement les grands, hein, Chablis premier cru et Meursault, du champagne et quelques crus du Val-de-Loire. Transition toute faite vers un grand amateur de Pierre Desproges qui lui rend un hommage liquide, c'est Jérôme Gagnès, notre chroniqueur vin.
On va déguster sur France Inter.
Val-de-Loire, Jérôme ?
Alors Val-de-Loire, mais juste avant, pour rebondir sur le Prosecco dont parlait à l'instant Elisabeth, j'ai une petite adresse à vous glisser très rapidement sur un très joli Prosecco d'un domaine qui s'appelle Zanin, Z-A-N-I-N. Le Prosecco s'appelle Cazen, parce que K avec une apostrophe, c'est en italien l'abréviation de Casa. Et donc Cazen, c'est le nom du domaine, et ça s'appelle Prosecco a Solo. Et voilà, c'est un très joli vin. Donc c'est une occasion de découvrir un effervescent italien de bonne qualité Il y a une production assez vaste, il y a beaucoup de trucs médiocres qui ne méritent rien d'autre que des glaçons et de l'apérole dedans. Il y en a d'autres qui méritent d'être bu nature.
Et votre Prosecco Cazenne est dans des prix accessibles ?
Ouais, entre une quinzaine d'euros, je pense.
D'accord.
Ce qui est un peu élevé pour un Prosecco, mais ce qui reste véritablement une aubaine en termes de rapport qualité-prix.
Et moins cher que les mauvais champagnes.
Et moins cher qu'un champagne, qu'il soit mauvais ou bon.
Ou bon d'ailleurs.
Ouais. De toute façon, quand c'est mauvais, c'est toujours trop cher.
Mais alors après le Prosecco, j'espère qu'on revient quand même sur le Val-de-Loire.
Évidemment, on revient sur le Val-de-Loire. J'ai confessé à ce micro mon amour immodéré pour cette région. Je le refais bien volontiers aujourd'hui. Et on parle d'une appellation que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Bourgueil. Alors quand j'évoque Bourgueil, ça évoque pour moi aussi Jean Carmet. Je ne sais pas s'il se connaissait, peu importe, mais ça évoque aussi Jean Carmet. Et ça évoque aussi et surtout des grands vins rouges, des vins de soif aussi. C'est une appellation extraordinaire. Pour vous dire à quel point c'est extraordinaire, j'ai eu l'immense chance d'assister il y a quelque temps à une dégustation verticale d'un domaine sur une cuvée. Et on est remonté en 1947.
Ah quand même.
Voilà.
Vous avez fait de la spéléo.
Ouais, on a fait de la spéléo dans la cave. Et donc, à tous ceux qui pensent que le Bourgueil est un aimable vin qui se boit frais au comptoir, j'oppose un démenti catégorique.
Moi aussi.
Et je leur dis, sortez un petit peu de vos caves, arrêtez de goûter les mêmes vins, prenez le train, c'est 55 minutes pour Saint-Pierre-des-Corps.
Là, vous parlez des Parisiens, hein?
Oui, pardon.
C'est un peu plus loin pour les Lyonnais
c'est
ou les Marseillais.
C'est un peu plus loin pour les Lyonnais. Oui, bah, comme ça,
mais
ça les promènera.
C'est plus près pour les Tourangeaux. Hein,
oui, c'est plus près pour les Tourangeaux. Et puis, de toute façon, ça promènera les Marseillais et les Lyonnais. Ça leur fera beaucoup de bien. Et donc, ils pourront découvrir des vins absolument extraordinaires. On parle aujourd'hui, donc, cette appellation, elle fait 1400 hectares. Il y a deux grands terroirs, en fait. Il y a un terroir qui va donner les vins les plus souples, les plus faciles. C'est plutôt des sables, des graves, donc c'est des petits cailloux. C'est des sols assez filtrants, assez légers, qui sont en général plutôt dans la plaine et vers la rivière. Et puis, il y a les coteaux qui sont, eux, des argilo-calcaires, des magnifiques argilo-calcaires, sur une pierre jaune, un calcaire tendre très typique de ce coin-là qui s'appelle le tuffeau, la tuffe. Et ça donne naissance à des vins de grande garde, comme je viens de l'expliquer, des vins qui sont malheureusement méconnus. Et je vais vous parler aussi d'un domaine qui, lui aussi, est très injustement méconnu, puisque c'est le domaine du Bel Air, Rodolphe, Pierre et Sophie Gauthier. Pierre, c'est le papa, Rodolphe, c'est le fils, Sophie, c'est la fille. La mère Catherine a disparu malheureusement il y a quelques années. Et voilà trois personnes qui réalisent un travail absolument remarquable. Alors Rodolphe et Pierre, c'est pas eux que vous entendrez le plus dans un dîner à brailler comme des veaux debout sur une table. Ils sont très discrets, mais leurs vins valent véritablement la peine d'être dégustés et d'être découverts. Je vous parle ici en premier lieu de deux cuvées. Une que nous sommes en train de déguster qui s'appelle Jour de Soif, la bien nommée Jour de Soif.
Allez-y Elisabeth.
L'étiquette colle parfaitement au produit. C'est un authentique, très joli et admirable vin de soif de Loire.
Ah oui.
C'est l'archétype même du vin de soif de Loire.
Elisabeth.
Oui, enfin, c'est quand même un vin qui a du corps, quoi. Parce que souvent, les vins de soif, on pense à des trucs qu'on boit frais et qu'on oublie. J'ai pas dit la deuxième chose qu'on fait, parce que je peux pas,
faut comme disait Jean Carmet.
Comme dirait
ça
Jean Carmet.
Ça se boit, ça se pisse.
Voilà. Et on fait pas de dissertation, comme disait Jean Carmet.
Mais là, il est vrai, une belle matière bien ciselée.
Oui, il y a une belle matière, mais on sent le terroir. Là, tu as le typhon de bouche où tu sens le tuffeau. C'est comme si un peu tu suçais la pierre avec quelque chose dessus. Quand
ça n'exclut pas, évidemment, vin de soif n'exclut pas la matière et la concentration dans le vin. Ici, ça n'en manque pas. Une petite partie sur calcaire, une essentielle partie sur gravier pour cette cuvée.
Et une belle couleur.
Une très jolie couleur. Et voilà, un vin qui est sapide, qui donne envie de reprendre un autre verre, qui roule sur la langue avec des tanins qui sont... Alors, les sommeliers avec le petit doigt en l'air et la bouche en cul de poule disent des tanins poudrés. On dira que les tanins ont le grain fin ici. On dira que ces tanins asticotent un peu, sans jamais devenir agressifs ni anguleux. Voilà, une grande réussite pour moi. Et c'est le porte-étendard, l'un des grands porte-étendards de ce qu'on appelle noblement les vins de soif en Loire.
Mais à surtout ne pas servir glacé. Hein.
Surtout ça pas. C'est un dommage, ça sert à 15 degrés, ça sert en gros à la température de la cave. Et puis je vous parle aussi rapidement d'une autre cuvée qui s'appelle les vins lieux-dits. Cette cuvée, elle est plutôt issue de sable argileux, donc plus d'argile, plus de corps. C'est un vin qui vieillira aussi un peu plus longtemps que Jour de Soif. C'est un vin qu'on découvrira sur une pièce de viande, par exemple. Il y a d'autres cuvées au domaine. Je ne peux que vous inciter à les appeler, à venir à aller les rencontrer. Ils sont absolument adorable, confondant de gentillesse, et vous découvrirez un domaine absolument exemplaire. Quand je vous aurais dit que notre jour de soif vont 11,50
euros
au domaine,
la bonne nouvelle,
et 14,50 pour 20 lieux-dits, je crois que je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est
prêt. Quel est le millésime?
2019 pour Jour de Soif, 2018 pour les 20 lieux-dits.
Si je connais bien ma biographie de Pierre Desproges, je crois que ses parents avaient acheté une maison à Bourgueil en 1960. Oui.
Absolument.
Donc il connaissait vraiment, il était enraciné. Hein,
et il avait à l'occasion de l'achat de la maison, le je crois que c'était le vendeur, avait ouvert une bouteille de la Tour 28.
Très bien.
Exact.
Juste.
Et qu'il a servi comme on sert du Coca-Cola, qui s'est fait engueuler. C'est ce qu'il m'avait raconté dans l'interview. Donc.
Le plaisir, une petite phrase de Desproges.
Allez.
Je ne comprends pas qu'on achète du vin sans l'avoir goûté au préalable. Il ne viendrait à personne l'idée d'acheter un pantalon sans l'essayer avant. Alors Dieu me tire-bouchonne, ne refusez pas à votre bouche ce que vous accordez à vos fesses.
Mais ils ne connaissaient pas Internet hein, à l'époque. Non. C'est là qu'on voit que c'était le monde d'avant.
En parlant de vin, je vous propose une autre chronique signée Pierre Desproges, publiée dans Cuisine et Vins de France, grâce à vous et Elisabeth de Merville. C'était au mi-temps des années 80. Elle s'intitule « La relève de l'indigence ». Et vous allez voir qu'elle met le doigt sur un travers bien français dans notre relation au vin. C'est à nouveau une lecture de Daniel Morin.
Wah, 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 wah. Allons enfants de la patrie, le jour de boire est arrivé. Le jour de boire quoi? N'importe quoi, hélas. Françaises, Français, honte à nous. Que le rouge de la honte, et non point celui vermeil et tuilé du Bordeaux vieux, nous monte aux joues. Françaises, Français, nous ne méritons pas nos vins. Nous sommes œnologiquement nuls. J'en ai pour preuve les chiffres accablants d'un ouvrage malheureusement fort bien documenté. Ça s'appelle « Francoscopie ». Cela dissèque, épluche, dénude, autopsie, fouille et farfouille au plus profond de nos us et coutumes, de nos goûts et travers et de leur évolution depuis Cro-Magnon jusqu'à la semaine dernière, à coups de sondages et de statistiques irréfutables. 68% des Français ignorent que le Pauillac est un vin de Bordeaux. 64% ne situent pas le Chambertin en Bourgogne. 8% connaissent le Montrachet. 90% ne savent pas que 1977 fut un millésime plus que médiocre pour les Bordeaux, etc., etc., etc. N'en jetez plus, la coupe est pleine de kiravi. Débordant de mansuétude, les auteurs expliquent en partie cette nouvelle inculture par une mauvaise transmission de la connaissance des anciens et le développement de la vente en hypermarché qui a supprimé le conseil apporté par les vendeurs des boutiques spécialisées. Il est de fait que ce n'est pas auprès d'une gorgone débordée de chez Mammouth que l'apprenti caviste apprendra à distinguer un Bourgueil d'un Boulaouane. Cependant, j'ai fait moi-même un sondage auprès des lycéens de mon quartier et, croyez-moi, la relève de l'indigence est assurée. Jugez plutôt. Qu'est-ce qu'un vin vert? Réponse, un vin vendangé au printemps. Un vin gouléant? Réponse, c'est quand la bouteille a un petit goulot. Qu'est-ce que la robe d'un vin? Réponse, la couleur de l'étiquette. Qu'est-ce qu'un vin bouchonné? Réponse, un vin fermé avec un bouchon. Un demi-sec? Réponse, c'est quand on boit le verre en deux fois. Que fait le sommelier? Réponse, c'est le mec qui essaye les matelas. Pouvez-vous me citer deux crus du Bordelais? Réponse, Chapeau Latour et Gévéor. Une grande année de Bordeaux? Réponse, 1977, ils ont battu Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'un Jéroboam? Réponse, une bête. Où récolte-t-on le Beaujolais? Réponse, par là. D'accord, c'est un sondage un peu bidon, pour ne pas dire carrément cubiténaire. Il n'empêche que, pour reprendre l'expression des francoscopieurs, le vin est un chef-d'œuvre en péril. Et ce n'est pas nos cousins québécois qui vont le restaurer. En goguette, l'été dernier, entre Québec et Montréal, je demandais la carte des vins dans une charmante auberge spécialisée dans l'exquise poutine autochtone. Rouge ou blanc, sans qu'il hôtesse. Rouge, s'il vous plaît. Bière ou martini? Oh, tabernacle.
La mémoire nous joue des tours. Faudrait croire toujours en l'amour. On en a pris, oui, des chemins pour en arriver à ce destin. Faut bien gagner son pain. Et je dois vivre avec ça. Mmh.
Gaëtan Nonchalant, gagner son pain. Pierre Desproges à table, c'est le menu dominical dont on va déguster en ce dimanche 26 juillet. Nous sommes en compagnie d'Elisabeth de Meurville, qui fut une proche à table de Pierre Desproges, qui fut rédactrice en chef adjointe de Cuisine et Vins de France, qui accueillit de 84 à 85 Pierre Desproges. Voilà un mariage de la carpe et du lapin, en fait, hein, on pourrait dire.
Ah, c'est moi la carpe?
Non, pas du tout, je parlais du magazine.
Non, mais oui.
Et le lapin, non, c'était Desproges, c'est ça?
C'est la carpe, c'est pour passer à la sardine.
Oui.
C'est pour
passer. Eh bien, on va y passer justement à la sardine, mais je vous propose d'ailleurs d'abord un tout petit détour par la carotte. Vous savez comment Desproges faisait cuire ses carottes? Je l'ai trouvé évidemment dans ce brillant recueil Desproges encore des nouilles aux éditions Les Échappées. Si vous voulez faire cuire des carottes sans casserole et sans eau, c'est très simple. Vous prenez 9 carottes, c'est très important. Vous prenez vos 9 carottes, vous les comptez bien soigneusement. Les carottes sont 9, vous jetez une des 9 carottes, les carottes sont
8.
C'est bon, vous l'avez tous?
Ouais. Oui, bah, on est débiles, mais on se soigne au Bourgueil.
De la carotte, on passe effectivement à la sardine. Je vois nos deux chroniqueurs en train de boulotter.
Ah. Oui, ils vont tout manger.
Une petite terrine incroyable.
Ils sont en train de lui casser la gueule, elle est magnifique.
Mais ça, c'est maison.
C'est bon ou pas?
Qu'est-ce que c'est bon? J'ai fait ça cette nuit. Ouais. Enfin non, hier soir. Mais c'est une recette que j'utilisais avant que Desproges fasse. Mais il m'a fait... Alors lui, il appelait ça le pâté de sardine. Aujourd'hui, on appelle ça bêtement des rillettes de sardine. Mm-hmm. On en trouve plein le marché, dans des petits pots, hors de prix. Et si vous les faites à la maison, ça demande très exactement 5 minutes.
Et coût de revient?
Le prix de revient, bah vous en faites beaucoup plus pour moins cher, parce que vous achetez des sardines. Bon, là, ce sont des sardines, comme disaient Desproges, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Oui, parce qu'il
les
avait,
meilleurs
il,
du monde.
Il avait quand même ses préférences.
Et celle-là, son coq d'or du Guide des Gourmands. Non, il allait en vacances en Vendée. En vacances là-bas. Voilà.
J'ai dans la main, grâce à vous, une conserve, effectivement, de sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Et millésimé 2013. L'année de votre naissance, ou presque.
Ouais, on n'est pas loin. La perle des dieux.
Voilà. La perle des dieux.
Ça, c'est la maison.
Et ce sont des sardines formidables, parce que elles existaient pas, cette marque-là. Du temps de Desproges. Et elles sont formidables parce qu'elles sont fabriquées bêtement avec des sardines fraîches, des vrais poissons.
Et des vraies sardines françaises de pêche de petit bateau.
Qu'on fait un peu dorer avant de les mettre en boîte et qu'on met avec de la bonne huile. C'est tout ballot, mais vrai. Et là, elles sont millésimées. Moi, je les garde très longtemps. Normalement, on peut les garder 10 ans, mais j'en ai des plus vieilles. J'ai pas osé vous en apporter au cas où, mais moi, je les mangerai. Et effectivement, c'est un coq d'or du Guide des Gourmands. Et voilà. Et on les trouve à Paris, au Salon des Coqs d'Or.
Absolument, qui aura lieu...
En novembre, pardon.
En novembre.
Le 21-22 novembre.
Absolument. Le Salon des Coqs d'Or, si, vous récompensez
tout va bien, monsieur Covid.
Vous récompensez vos produits du terroir préféré. Et ça fait un moment que vous arpentez les terroirs de France pour, à la recherche des meilleurs
33
produits.
33 ans. Avant, c'était là. Et c'est né à la suite d'un numéro de Cuisine et Vins de France qu'on avait fait pour les 40 ans du journal. Mm-hmm. Et j'avais fait les meilleurs produits.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Elisabeth a été la première à mettre à l'honneur les produits et les personnes qui les font.
Absolument.
Bien avant que ce soit la mode, parce que maintenant ça paraît une évidence de citer sa sardine de chez machin, le fromage affiné par...
Et le Guide des Gourmands est toujours un guide de référence qui est bien en place dans la bibliothèque dont on va déguster, je peux vous dire.
Oui,
et
oui,
qui
je vous est, en ai rapporté un exemplaire.
Et qui est consulté quasi quotidiennement, absolument.
Voilà.
Revenons à cette recette de rillettes ou pâté à la desprogienne, on va dire.
Voilà.
C'est tout simple à faire et l'effet est bluffant.
Il suffit d'ouvrir la boîte sans se couper les doigts. On sort les sardines, on enlève un peu la peau, le petit bout de la queue et l'arête centrale. Donc on récupère la chair, on met dans une assiette avec un bout de beurre qu'on a sorti du frigo un petit moment à l'avance pour pas qu'il soit trop dur. Et on écrase et on rajoute, là moi j'ai mis une pointe de piment d'Espelette. Lui il mettait du piment, il mettait du tabasco, bon, enfin, chacun fait comme il veut. Et puis un peu d'herbe, là j'ai mis de la ciboulette. Et puis surtout, ce qui est très important parce que ça donne une jolie couleur et ça donne un petit goût formidable, du concentré de tomate. En tube. C'est un produit dont il faudrait faire l'éloge.
C'est
un de ces produits indispensables en cuisine.
Sauf quand il vient
merveille.
De Chine, puisque 95%
de la
production... Non, il
ne vient pas de Chine. Vous achetez, je ne vais pas dire la marque, une marque italienne qui a eu un coq d'or du
Guide.
Voilà, qui est en vente. Formidable.
C'est vrai que ça donne de la sapidité encore.
Ah oui, et c'est extraordinaire.
C'est un lion aussi.
Vous oubliez de préciser, parce que moi j'ai la recette de Pierre Desproges sous les yeux, vous oubliez de préciser qu'il ajoutait un peu de ketchup.
Oui, mais moi, j'en mets pas.
D'accord.
Parce que le ketchup, c'est du sucre.
Et il y avait
le
également.
Sucre dans la sardine.
Il y avait de l'estragon.
Oui, mais il dit qu'il mettait de l'estragon,
du fenouil. Ça dépend.
Moi, j'aime bien le goût de la ciboulette parce que
oui,
ce petit goût d'oignon, voilà.
Et une petite cuillère à café de pastis.
pour la note anisée.
Et je mets pas le pastis.
D'accord. Donc c'est pas du tout la recette des proches.
C'est voyant, c'est presque la recette des proches. Mais même lui, il variait sur les.
Elisabeth de Blanville a un palais tellement exigeant qu'elle est obligée de faire sienne les recettes des autres et de les adapter à son propre goût.
Non, c'est pas vrai du tout parce que je faisais déjà des rillettes de sardines.
Ceci étant, vous êtes sauvée. Elle est excellente.
Oui.
Ah oui, très bonne.
Et de surcroît, la recette est disponible. Sur franceinter.fr, à la page On va déguster, pour tous nos auditeurs qui cherchent des idées justement.
Et
de,
même les variantes.
Pour l'apéro. De petits plats, c'est une super idée.
Je le fais à la maison.
Truc qui coûte 3 francs 6 sous et des boîtes de sardines, on peut en avoir dans le placard, ça bouge pas. En plus, c'est extrêmement bon pour la santé.
On est dans la tomate et je vous propose d'y rester car Pierre Desproges avait fait un sacré sort à ce légume-fruit très estival. Quand Pierre Desproges oscille, vous allez le voir. Entre émotion et humeur grinçante, c'est toujours Daniel Morin à la lecture.
Tout en déplorant de devoir pousser plus avant la provocation, il faut bien reconnaître que j'adore les tomates. La tomate est l'aboutissement somptueux du savoir-faire divin dans le règne végétal. D'abord, elle est rouge. Pas de ce rouge bleuté qui suffit au radis, ni de ce vermillon lisse et polissé qui rutile au cul crevassé des singes obscènes du zoo de Vincennes et dont l'éclat sans nuance convient au piment crapuleux des potées maghrébines. Encore moins de ce rouge avarié, humide et violacé des betteraves potagères. Qui dira l'ignominie des saladiers betteraviers arcopales, posés comme des bouses sanglantes sur ces nappes synthétiques, méchamment imprimées de calamiteuses floralies qui font la joie simple des tablées dominicales ouvrières? Le rouge de la tomate à la flamboyance assassine des couchers de soleil d'Istanbul. Je chante ici l'émouvance absolue du satin lumineux de sa peau transparente, impeccablement tendue sur les rondeurs de sa chair dense et tiède, comme les joues des enfants, ferme et dure, comme les fesses encore épargnées des lycéennes de première B de l'Institut catholique de la rue d'Assas à Paris, dans le 6e, en dessous de la Fnac Montparnasse, juste en face du marchand d'imperméables. À l'instar de l'androgyne, jamais tout à fait mâle, et pas vraiment femelle, la tomate n'est pas le fruit qu'on nous dit, ni le légume qu'on voudrait nous faire croire. Le charme envoûtant de son goût flibustier tient tout entier de cette trouble ambivalence, sel acide et sucre amer, qui vous explose en bouche quand vous croquez dedans. La tomate se mérite. Sur ces 100 façons de l'accommoder, la plupart conviennent à l'omnivore moyen des cantines obligées, dont les papilles coutumières des plus vulgaires tambouilles ne se révoltent plus qu'aux excès de paprika dans les goulash affligeants qu'on leur sert au buffet des gares du Nord. Le gourmet raffiné a d'autres exigences. Il renacle aux salades niçoises concoctées dans la Meuse, surchargées d'olives en carton et de queues d'anchois marron merde, ou les quartiers sommaires de tomates anémiées, sauvagement tranchées à Verdun, à peine épépinées, jamais pelées, se gercent et se racornissent dans cet infâme vinaigre d'alcool où le plus pingre gargotier punit ses cornichons. Il s'offusque aux ratatouilles bilieuses qu'on redoute à Roubaix. Il conspue le cassoulet rosâtre qui se fige en son bol froid, récuse l'olivette hydrophile fil des potées cotonneuses, réfute la poivrade au gras lourd, vilipente la prétentieuse cassolette surbouillie des sous-maîtres queues adulées des gogos du Millau. Il n'a pas tort. 5, peut-être 6 manières d'accommoder la tomate sont seules dignes de l'honnête homme. Quand on sait l'ignominie du poulet basquaise, on ne s'étonne plus de la virulence des exactions de l'ETA militaire.
C'est la saison de la tomate et c'était un légume-fruit qu'adorait Pierre Desproges.
C'est la saison maintenant. Hein. La tomate, avant le mois de fin juin, c'est la saison maintenant. Alors arrêtez de dire que vous n'avez pas des bonnes tomates. Non, en janvier, il n'y a pas des bonnes tomates.
On est d'accord.
Et on pollue la planète à transporter ou alors on pollue la planète à chauffer des serres pour cultiver des tomates qui n'ont jamais vu la terre, jamais vu le ciel, jamais vu rien de normal et qui sont des produits sans âme et sans goût. Donc, mange des tomates en été. Même si celles-là, vous pouvez les manger, celles que je vous ai apportées, vous pouvez les manger toute l'année.
On y vient et vous allez en parler dans une seconde, car on va découvrir qu'Elvira, on a fait très bon usage. La chronique tomate de Pierre Desproges vous a inspiré, Elvira.
Mais surtout cette phrase que j'ai trouvée magnifique, le rouge de la tomate à la flamboyance assassine des couchers de soleil d'Istanbul. C'est une merveille cette phrase, non ?
Oui.
Alors, ça m'a inspiré. D'Istanbul, il y a quelques années, j'ai rapporté une foule de souvenirs de table. Et en particulier, un plat que l'on sert plutôt le matin. C'est un petit déjeuner salé. Il s'agit d'œufs pochés au yaourt, assaisonnés de menthe, ail, paprika, et arrosés d'un filet de beurre tiède. Ça s'appelle le silbir. Alors, c'est une recette toute simple qui était prisée des sultans ottomans dès le 15e siècle. On en trouve la trace de cette recette en Bulgarie aussi, autre pays du yaourt, sous le nom de panagyurski. Et plus proche étymologiquement, sous le nom de Simbour, dans les Balkans. C'est une préparation d'œuf arrosé de yaourt qu'on trouve notamment en Serbie, au Monténégro.
C'est bon.
Alors, à l'œil, hormis la tomate que j'ai posée dessus, on pourrait s'imaginer un petit peu qu'on a affaire à un tzatziki ou de loin, sans ses lunettes, à des œufs bénédictes. Alors, il y a d'abord un prérequis. Il faut réussir la cuisson des œufs pochés. Et là, je me tourne vers Elisabeth, qui non seulement est incollable en matière de produits, mais est une cuisinière merveilleuse. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se planter ?
Eh ben, je m'y prends à l'ancienne et sans rien, c'est-à-dire dans l'eau
vinaigrée,
frémissante, avec un trait de vinaigre. Ouais. Et puis j'essaye de rattraper.
Je les pose et je les retourne
avec une écumoise. Parce que tous les engins, j'en ai plein. Je pourrais vous apporter un sac complet d'engins que j'achète de par le monde pour poser l'œuf dedans. Ça marche.
Et tantôt ça fonctionne, tantôt non. C'est quand même un peu énigmatique l'œuf poché. Donc moi j'ai fait comme Elisabeth, j'ai fait le tourbillon avec l'eau un peu vinaigrée. Il y en a un qui foire un peu le blanc. Se fait la malle, et puis les autres fonctionnent, on ne sait pas très bien pourquoi. Vaguement avec la louche, je donne une forme à peu près convenable.
Vaguement, c'est ça.
De toute façon, là, ils sont enterrés sous le yaourt, donc on voit rien.
Ceci étant, le jaune, je confirme que le jaune est bien coulant. Le blanc est souple et pas du tout élastique. Et j'adore ce yaourt avec ses notes de menthe, c'est très frais pour l'été, c'est parfait, c'est mon brunch idéal. Là.
Mais l'ail au petit-déj, c'est pas séducteur. Hein.
Ah, j'adore.
Non, c'est pour le brunch.
Avec la dame avec qui vous avez passé la nuit, parce que si vous achetez.
Donc on mélange tout simplement du yaourt grec, le yaourt le plus épais, le plus gras que vous pouvez, avec du paprika fumé. Alors moi, je mets une petite pointe de harissa, parce que je mets un peu du piment de la harissa partout. Je mets une tête d'épingle. Ah, j'en ai mis trop.
Non, pas du tout, ça m'a juste picoté les papilles.
Mais c'est pas du tout orthodoxe. Menthe ciselée, coriandre ciselée, sel, poivre. On nappe ces œufs pochés qu'on a dressés au fond de l'assiette, et on arrose d'un petit peu de beurre fondu.
C'est ça.
Voilà. Et pour raccorder au wagon de la flamboyance assassine des cochers de soleil d'Istanbul qu'évoquait Pierre Desproges et que lui évoquait le rouge à la tomate, j'ai déposé par-dessus
un pétale de tomate,
délicatement, une merveille de produit apporté par Elisabeth. Donc des pétales de tomate confites à l'huile de tournesol, pas l'huile d'olive ceci.
Non, mais parce que l'huile d'olive, ça emporterait le goût.
Oui.
Il faut pas faire n'importe quoi. Si on a une bonne huile d'olive, elle a un goût. Elle a un goût puissant. Alors si c'est pour avoir une huile d'olive qui a pas de goût, autant prendre du tournesol.
D'où viennent ces pétales de tomate confites?
Alors, ils viennent de la Dordogne, du sud de la Dordogne. Marc Perret est un monsieur qui cultive ses tomates et qui les transforme. Au départ, moi je l'ai connu, je l'ai découvert avec son vinaigre à la tomate, qui est une absolue merveille, qu'on met juste comme ça sur un fromage blanc ou sur une salade et puis on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Et là, ce sont ces pétales de tomates qui sont les tomates séchées. Moi, je trouve que c'est toujours trop séché. Et souvent, ça ressemble à un vieux carton et c'est pas bon. Et ça, c'est sublime.
C'est, on va dire, mi-confit. C'est souple.
Alors ça, ce sont les confites et il y a les
semi-confites
dans un autre...
Et les séchés, et il faut rappeler quand même...
C'est extraordinaire, et Marc Perret, encore un coq d'or du Guide des Gourmands,
et quand même,
et qui sera encore au Salon des coqs d'or.
Pendant qu'on y est, vous aviez un autre petit produit qui nous rapporte...
Alors j'avais mes poires
tapées. En deux phrases, dans le Val-de-Loire, c'est les poires tapées.
Les poires tapées de Rivarennes, elles s'appellent les poires tapées, et elles tapent ces poires une à une au fond de la grotte, et ces poires, elles sont séchées, et on peut les réhydrater.
Dans quoi?
Ben dans du Bourgogne, bien sûr,
ou du Chinon,
parce que c'est à côté de Chinon, mais c'est pas loin.
Il reste un peu de Bourgogne ou pas, cher ami?
Oui, mais il faut du temps pour les réhydrater.
C'est ça.
C'est pas en deux secondes, hein. Il faut un moment que
absolument.
Ça prend. Mais on peut les manger autrement. Moi, je les ai mangés sur des salades avec des fromages de chèvre frais. Et elle fait des fouets. La dame qui fait les poires tapées, qui s'appelle Christine Hérin, elle prépare des fouets et on peut y aller déjeuner. S'il fait pas trop chaud, on est dans le jardin. S'il fait trop chaud, on peut aller dans l'atelier Troglodyte, et où il fait plutôt plus frais, et voilà. Et on peut y aller déjeuner, et y prendre le goûter, pendant tout l'été, même toute l'année. Et c'est un produit.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Elvira?
Et si vous savez pourquoi on les tape? Une fois qu'on les a fait sécher, il faut les taper pour enlever tout l'air, pour que elles ne moisissent pas et elles se conservent très très longtemps.
Tradition.
C'est un produit qui remonte bien avant le Moyen-Âge et qui a failli disparaître. Et
c'est
qui a
tellement
été remis,
concentré. C'est concentré en...
C'est un produit extraordinaire. Extraordinaire. Et chez elle,
c'est
en plus,
délicat.
Ça vaut le coup de l'avoir travaillé saison des pois. C'est extraordinaire.
Concentration de sucre
et d'arôme. C'est un produit rarissime. C'est un produit rarissime comme beaucoup de produits...
Ça paraît bête, mais il y a un goût surpuissant de poire.
Oui. Bah évidemment, mais c'est normal. Si ça avait un goût de raisin, ce serait embêtant.
Oui, mais ça de manière totalement naturelle. Incroyable.
Oui. Et
vous nous en rappelez juste la référence?
Alors, c'est les poires tapées à Rivarennes. Christine Hérin. Si vous, vous avez, c'est encore un coq d'or du Guide des Gourmands. Toutes Absolument. Ces adresses sont...
Et tous vos coups de cœur sont à retrouver sur franceinter.fr.
Voilà.
À la page, on va déguster. Allez, une toute dernière citation de Pierre Desproges. Pour se faire plaisir, cher Jérôme Gagnès, vous avez la bouche pleine, mais vous avez, je vous laisse le temps d'avaler.
Non, mais il n'y a pas de problème. Elle est magnifique, cette citation. Je l'avais lue dans le livre « On y va ». Les vins de Touraine sont anticancérigènes. Les vins de Bourgueil, notamment, légers, délicatement framboisés, rouges pivoines au soleil et clairs en bouche, ne se contentent pas de susciter au palais l'esprit léger des bords de Loire. Ce fin nectar constitue en outre un véritable repoussoir à métastase. Je sais de quoi je parle. Ayant toujours en cave un roulement de 300 bouteilles de Bourgueil, je n'ai pratiquement jamais de cancer. D'ailleurs, je n'en aurai jamais, je suis contre la mort. L'important est de ne pas oublier de boire.
Bon, ironie quand on sait que...
Que 3 ans après, il nous quittait de
Pierre
cette
Desproges
sale maladie.
Nous quittait effectivement d'un cancer. En tout cas, on lui rendait hommage quand il était à table. Parce que chez Pierre Desproges, il y avait ça, cette contradiction. C'était quelqu'un finalement souvent d'un peu noir, d'un peu sombre, voire de très pessimiste. Et en même temps, c'était un sacré bon vivant.
Exact. Et il adorait ses filles, sa femme, sa maison. Il adorait se mettre à table. Il adorait boire un coup. Il adorait déconner avec les copains. En fait, c'était vraiment... Bon, comme beaucoup d'humoristes, hein. Il y a les deux côtés.
Merci Elisabeth de Merville de nous avoir offert ce témoignage sur Pierre Desproges, gastronome. Et si vous voulez vous régaler et dévorer les chroniques culinaires de Pierre Desproges, eh bien il y a ce recueil qui est encore en vente dans toutes les bonnes librairies. Desproges, encore des nouilles. Il adorait les patins.
Et c'était le titre de la chronique.
C'est ça, et c'était le titre de la chronique.
Qui avait dérouté aussi.
Encore des nouilles.
Il y avait dérouté.
Aux éditions Les Échappées. Et puis un immense merci aussi à Daniel Morin pour ses lectures de Pierre Desproges. Daniel Morin que l'on retrouve très bientôt sur les ondes de France Inter. Et puis bien sûr, on réinsiste dessus, le Guide des Gourmands dans toutes les bonnes librairies, et en attendant le nouveau palmarès des coqs d'or.
Et sur internet, hein, guidedesgourmands.fr.
Absolument, et vous récompenserez à nouveau vos meilleurs produits du terroir en septembre prochain. On vous accompagnera dans cette aventure, chère Elisabeth.
Ah, j'espère bien.
C'était la dernière émission fraîche dont va déguster avant quelques vacances bien méritées au mois d'août. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, les meilleurs moments dont va déguster vous attendent le samedi à 11h et le dimanche à 11h pendant tout le mois d'août. Au menu, samedi prochain à 11h, la banane. Et dimanche, à la même heure, une leçon de cuisine italienne avec Laura Zavan. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle saison dont va déguster le dimanche 30 août à 11h, au week-end prochain, si vous avez encore faim.